RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence. Comment te dire adieu ? La belle Françoise Hardy s'en est allée cette semaine après de longues années de souffrance. L'élégance de son style rayonnait jusque dans son écriture, qui avait l'intime pour territoire. Ses chansons pleines de spleen habiteront encore longtemps notre mélancolie. Elle a signé quelques-unes des plus belles pages de la chanson française, et c'est comme une grande sœur qui doucement a refermé la porte derrière elle. Nous lui rendrons hommage cette semaine, et nous l'écouterons ensemble comme de vieux amis, dégustant un bon vin et se rappelant les bons souvenirs. L'amitié, c'est notre sujet dans ce magazine de l'étonnement culturel. Ce n'est pas anodin de se retrouver chaque semaine pour parler culture. En partageant régulièrement ce qui nous émeut, ce qui nous trouble ou nous émerveille, des liens se sont créés. Parler littérature, cinéma, peinture, ça donne l'occasion d'évoquer la mort, la vie, l'amour, le manque, comme le trop-plein. Et chaque pépite de cette émission est l'occasion de se rencontrer un peu plus, de se découvrir un peu plus. Alors, merci aux chroniqueurs de cette émission, à tous les chroniqueurs qui ont participé jusqu'ici à cette belle aventure. Et pour cette semaine, ils sont trois amis réunis autour de moi pour célébrer l'amitié. François Huguenin, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes avec nous depuis Fontainebleau, vous nous aviez déjà fait écouter le chanteur Olivier Rocabois, mais là, son talent explose avec un album somptueux que vous nous présenterez. Sinon, vous êtes en train de vous mettre à la poésie et vous avez lu un recueil du poète Jean-Pierre Lemaire. Valérie Marniac, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous revenez de Normandie, je crois. Vous avez assisté aux cérémonies des 80 ans du débarquement. Et vous nous parlerez de l'exposition parisienne consacrée au film « Paris brûle-t-il » sur la libération de la capitale. Et puis, au cœur de l'actualité cinématographique, il y a ce film de Léos Carax, bel hommage au cinéma. Ça s'appelle « C'est pas moi » et vous nous raconterez. Delphine Fraissinet, bonjour.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Vous êtes à Bruxelles, la capitale de la bande dessinée, et vous nous présenterez un album qui célèbre la gourmandise et l'amitié. Et puis on découvrira que la BD, eh bien ça peut rimer avec le jazz. Voilà, trois amis bien installés, Effervescence peut commencer.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Les copains d'abord, interprétés ici par le groupe Cornu en 2001 sur un album hommage aux chanteurs à la pipe Les Oiseaux de Passage. Les copains d'abord, une chanson écrite en 1964, une chanson écrite pour le film Les copains d'Yves Robert. Alors Brassens n'est pas vraiment un habitué des chansons de commande, mais qui peut dire non à un ami ? Et Yves Robert était son ami. Il y a beaucoup de chansons pour évoquer l'amitié, mais celle de Brassens est peut-être la plus célèbre, celle qui revient le plus fréquemment. On y retrouve toute la beauté de la langue de Brassens, son inscription dans notre histoire littéraire, notre patrimoine culturel, le radeau de la Méduse, Montaigne et la Boétie, Castor et Pollux. Et puis il y a ces images, hein, les bras qui font des sémaphores, le trou dans l'eau qui jamais au grand jamais ne se refermait. Moi, j'aime beaucoup cette idée de l'amitié qui prend le quart quand il y a un coup de Trafalgar. Cette idée que quand ça tangue, il y a des amis qui sont là pour veiller sur vous. Alors merci à eux, merci à elles. Dans Effervescence, on redécouvre quelques œuvres essentielles pour parler d'amitié.
Rocky, tu es mon meilleur ami. Et tu es le mien aussi, Rox. Alors moi, je propose qu'on reste toujours amis. Promis ? Oui, promis.
Bon, on a dit des œuvres essentielles pour parler d'amitié. Rox et Rookie, est-ce bien sérieux? Eh ben si. Pour beaucoup de gens de ma génération, Rox et Rookie, c'est un des premiers Disney vus au cinéma. À une époque où les films étaient beaucoup moins accessibles, l'amitié entre ce petit renard et ce chiot qui va devenir un chien de chasse, ça compte. C'est un classique de classique. Les scènes d'affrontement, l'irruption du grizzly, le chagrin de Rookie, la colère de Rox... Forcément, elles sont imprimées de façon indélébile. Et quand en plus, comme moi, vous aviez le disque avec la chanson de Dorothée, c'est fichu. Rox et Rookie sont vraiment vos amis pour la vie. Et puis l'amitié, malgré les différences, la défense de la vie sauvage et de la nature, le non à la chasse, voilà, plus de 40 ans après, on dit toujours oui. Allez, de façon plus sérieuse, on va parler d'amitié féminine avec un film Valérie, sorti en 1991, un film devenu culte et dont on a déjà parlé dans Effervescence, c'est Thelma et Louise.
Ah bah pour moi, effectivement, c'est le film sur l'amitié. Alors c'est vrai que c'est une référence maintenant un peu passée. Moi, quand le film est sorti, j'avais 25 ans et c'était un peu ma vision idéale de l'amitié, de l'entraide, de la sororité, du côté un peu jusqu'au boutiste.
On disait pas encore ce mot sororité.
Non, on disait pas, c'est vrai. Et c'était le côté la vie à la mort, ouais. En fait. Voilà. Et entre ces deux femmes que tout oppose. C'est déjà ces deux actrices. Au départ, c'était Michelle Pfeiffer qui devait être... Bon, finalement, ça a été Gina Davis, qu'on connaissait pas très bien. Susan Sarandon, ce côté un peu rousse flamboyante. C'était déjà assez transgressif à l'époque. Et puis, c'était un film qui revisitait tous les codes très masculins de genre cinématographique, comme le western, comme le polar, comme le road movie. On n'avait jamais vu ça avec deux femmes héroïnes du film. C'était aussi un film 100% féminin. Hein. La productrice était une femme, la scénariste... a eu d'ailleurs un Oscar, un Golden Globe, était une femme. Bon, dans la musique, il y a Marianne Faithfull, qui était aussi un peu une icône.
Là, c'était la musique d'Hans Zimmer, ce qu'on écoutait.
Oui, alors qui est le compositeur de la bande originale. Mais effectivement, il y a un des titres phares qui est Marianne Faithfull, c'est The Ballad of Lady Jordan, je crois.
Ouais.
Et puis voilà, donc c'est vrai que pour moi, c'est un peu une des références. Après, il y en a eu plein d'autres, mais peut-être la première.
Pour parler d'amitié. Delphine, vous, pour évoquer l'amitié, vous nous avez apporté une série de 5 bandes dessinées absolument formidables. Ce sont 5 jeunes adolescentes rejetées par leur entourage scolaire et elles décident de fonder le club des Malbarrés pour faire face à l'adversité. Ça s'appelle Filles Uniques.
Ouais, voilà, c'est 5 filles, c'est Apolline, Céleste, Chélonia, Paloma et Sierra. Et donc, en créant ce club des Malbarrés, elles vont unir leurs différences pour essayer de mieux vivre. Alors, chaque tome raconte l'histoire d'une des filles, mais ça peut se lire bien évidemment indépendamment, mais c'est quand même mieux de lire dans l'ordre et qui commence par Paloma. Et je trouve que la série traite vraiment avec beaucoup de justesse des thèmes de l'adolescence difficile et des dysfonctionnements familiaux. Paloma, par exemple, la rebelle qui se fait jeter d'une flopée de familles d'accueil avant d'atterrir dans celle de la dernière chance. Et puis, il y a aussi dans l'intrigue de Céleste un aspect, je trouve, qui est peu traité dans les relations toxiques. Et l'avant-dernier album, Apolline, je trouve qu'il était encore plus poignant et plus mélancolique et plus inquiétant aussi que les précédents, parce que il aborde vraiment le mal-être profond d'une jeune fille qui croit qu'elle n'a pas sa place dans la vie. Donc c'est vraiment une série BD qui peut parler à beaucoup d'adolescents, qui peut les aider à comprendre et à se dire je suis pas tout seul et non, ce n'est pas moi le problème. Donc je trouve que le scénario, les dessins, les couleurs sont vraiment très justes, très subtils, très 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 sensibles. Et aussi je dirais qu'il y avait un twist dans l'avant-dernier qui donnait vraiment envie de lire le dernier tome consacré à Chélonia. Et on sait que c'est absolument pas facile de bien terminer une série, que ce soit en BD ou en télé. On va faire un petit coucou au scénariste de Game of Thrones, par exemple. Et ben là, je trouve que la fin, elle est vraiment réussie, elle est cohérente. Il y a de l'espoir, il y a de l'énergie, ça donne un destin ouvert à chacune des filles, mais enfin voilà, c'est vraiment une très 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 forte série, une très chouette que je recommande. Donc le scénario, c'est les Becca, c'est le pseudo du couple de scénaristes français Bertrand Escaïche et Caroline Roch, et puis les dessins sont du Camille Méhu et c'est chez Dargaud. Je la recommande absolument, cette série.
Ça s'appelle Fille unique. Alors on a parlé des amitiés féminines, regardons du côté des hommes. Les histoires d'amitiés viriles, c'est presque un genre en soi au cinéma, hein. Les films de copains, Un éléphant, ça trompe énormément, Le cœur des hommes ou Drunk. Mais vous, François, vous souhaitiez évoquer les amitiés littéraires. Alors, il y a l'amitié quasi mythique de Montaigne et La Boétie, hein, cité tout à l'heure par Brassens, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Vous vouliez nous parler d'écrivains un peu plus proches de nous et qui, je sais, sont particulièrement chers à votre cœur.
Oui, alors je voudrais d'abord parler d'une amitié alors très sérieuse pour le coup entre Julien Green et Jacques Maritain. Julien Green, qu'on ne présente plus, grand romancier, diariste qui a couvert à peu près tout le siècle, et Maritain qui était ce philosophe très marqué par le catholicisme. Et en fait, ces deux hommes ont eu une amitié extrêmement profonde. Alors que Green était dans une vie parfois dissolue et que Maritain représentait plutôt un certain conformisme moral, et je dis pas ça de manière désagréable pour Maritain, on voit dans leur correspondance, parce qu'en fait ils se sont écrits pendant toute leur vie, que Maritain pousse Green à écrire, l'encourage, lui vante les mérites du roman, lui le philosophe plutôt considéré comme austère, eh bien il est un véritable ami de son ami Julien Green, et donc on a un volume de correspondance qui s'appelle Une grande amitié, qui court sur presque 50 ans, entre 1926, le moment où ils se sont connus, et 1972, juste avant la mort de Jacques Maritain. Pendant près de 50 ans, non seulement ils se sont vus très souvent, notamment à Meudon, où les Maritains recevaient leurs amis, mais en plus de se voir, ça nous paraît étrange aujourd'hui, ils s'écrivaient très régulièrement pour se dire des choses que sans doute ils ne se disaient pas à l'oral et qu'ils se disaient par écrit. Et puis il y a une deuxième amitié d'écrivains que j'aime beaucoup, ces écrivains des années 50-60 qu'on appelle les hussards, écrivains plutôt catalogués à droite, assez anticonformistes, et il y a eu une immense amitié entre deux d'entre eux, Roger Nimier et Antoine Blondin. Vous connaissez tous, je pense, Antoine Blondin, qui nous est resté célèbre par ses magnifiques romans et puis son goût un peu immodéré pour l'alcool, ce qu'il appelait les verres de contact. Eh bien, il y a eu beaucoup de verres de contact entre Nimier et Blondin, qui pouvait mettre le bazar dans les brasseries parisiennes très chic autour de quelques verres. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter, que d'ailleurs j'ai raconté dans une nouvelle. Je suis allé voir Antoine Blondin par hasard un jour, grâce à un ami qui m'y a poussé. À la fin de sa vie, il allait mourir, il était malade d'un cancer. Nous avons sonné à sa porte. Et il nous a reçus très gentiment, en peignoir, il était très fatigué, très voilà. Et à un moment donné, mon ami dit « François est un admirateur éperdu de Roger Nimier ». Je me suis dit « Mais quel imbécile, pourquoi il lui parle de Roger Nimier ? On vient le voir lui ». Et là, Antoine Blondin a levé la tête, il était sur son canapé, décharné, il a levé la tête, il m'a regardé et il m'a dit « Roger, c'était mon ami ». Et Roger était mort depuis plus d'une vingtaine d'années, presque 30 ans. Et la blessure, elle était intacte dans le cœur d'Antoine Blondin. Je n'oublierai jamais ça. C'est ça l'amitié.
Merci François. Roger Nimier, Antoine Blondin et puis cette amitié aussi entre Jacques Maritain et Julien Green. On note bien, comme les beaux jours sont là, qu'on a des rêves plein la tête, des envies d'aller danser, de se promener au bord de l'eau, il y a un vieux film qui m'est revenu sur l'amitié. C'est La Belle Équipe. 5 copains, Jean, Charles, Raymond, Jacques et Mario, 5 titis parisiens qui gagnent à la loterie et décident de construire une guinguette.
On a gagné! Oh bon Dieu, bon Dieu! On a gagné 100 000 belles! Notre dixième est sorti à la loterie!
Sans blague!
20 000 belles chacun!
Va chercher du mousse de renfort!
Il a gagné 20 000 belles, mon pote de Blariche!
Ah, c'est merveilleux! Avec toi, tout s'arrange toujours!
On veut tous la même chose, la liberté!
Mais si on reste unis, on en aura 100!
À 5, on sera plus fort!
Alors, c'est entendu? De l'eau?
un potager et puis une petite maison au milieu.
Bâtir une guinguette n'est pas un long fleuve tranquille et les cinq amis ne sont plus que deux pour l'ouverture, Charles et Jean, et tous les deux amoureux de la sulfureuse Gina. Dans la version originale, Jean abat Charles et il est arrêté. Mais cette fin fut jugée trop pessimiste pour l'époque, celle du Front populaire, et fut donc refaite. Gina devra se retirer devant le mépris des deux hommes qui font passer l'amitié avant tout. Aujourd'hui, c'est la version originale que vous pouvez voir sur les plateformes. Si on a le sourire aux lèvres pendant toute la première partie, petit à petit, on se fige et on retient son souffle en attendant l'inexorable. Et là où on chantait dans tous les coins, maintenant, c'est le silence, dit Gabin. Est-ce qu'il y a des chagrins d'amitié comme il y a des chagrins d'amour? La belle équipe, c'est une histoire tragique sur la fin de l'amitié, sur son délitement inexorable. C'est un film sur nos renoncements, nos lâchetés, mais aussi la difficulté d'être à la hauteur de nos rêves. Un film qui sort en 1936, période d'insouciance, dernier sursaut, avant que ne s'abatte un couvercle de plomb. Alors on voudrait s'étourdir dans la danse, mais on le sait, le réveil sera brutal.
Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine. Tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau. Au trémolo des petits oiseaux. Suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens cafardeux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin.
On a commencé l'émission en écoutant « Les copains d'abord », une chanson sortie en 1964, je vous le disais. En 1964, Françoise Hardy a 20 ans. « Tous les garçons et les filles » est sorti 2 ans auparavant. Et alors qu'en 1965, le film d'Yves Robert « Les copains » arrive au cinéma, Françoise Hardy, elle est en tournée en France, sur scène. Elle porte tunique et pantalon blanc de chez Courrèges. Et puis en novembre 65, elle va publier son 4e album, « L'amitié ».
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages et la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras, tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai
L'amitié, écrit, composé, chanté par Françoise Hardy. Nous sommes en 1965, elle a 20 ans, je vous le disais. Françoise Hardy, c'est une silhouette longiligne, une voix, des mots et une place à part dans cette vague yéyé de ce début des années 60. Françoise Hardy est morte ce mardi 11 juin, elle avait 80 ans et c'est son fils Thomas Dutronc qui a annoncé son décès. Valérie, je crois que vous êtes une inconditionnelle de Françoise Hardy. Vous aimez tout, vous nous avez dit.
Oui, bah moi depuis ses débuts, pour moi, c'est vraiment la chanteuse française et la femme française par excellence. Effectivement, vous l'avez cité, elle est aux confins de la mode et de la chanson parce qu'elle avait un look très 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 à part. C'était vraiment l'époque des yéyés et des choucroutes sur la tête de Sheila. Et moi, c'était Françoise Hardy, c'était tout ce que j'aimais à l'époque. Elle avait ce côté, maintenant on qualifie ça d'androgyne, mais moi je trouvais qu'elle était extrêmement féminine, mais de manière différente tout simplement. Et puis cette voix, pareil, ses détracteurs disaient qu'elle n'avait pas de voix, mais moi je trouve qu'elle a une voix sublime. Et d'ailleurs toutes les reprises de ses chansons sont moins bien, c'est un signe. Et elle, on a l'impression qu'elle vous chante directement à l'oreille, il y a quelque chose d'être très intime. Et bon, il y a cette mélancolie évidemment moi, qui me touche beaucoup. Et puis elle avait, c'est-à-dire qu'elle est à la fois, elle fait partie de cette période des yéyés et en même temps elle a ce côté à elle, donc très
déjà très moderne,
discrète, ouais, moderne, très moderne, tout en étant très très discrète, mais avec une présence incroyable. Et sur scène, effectivement, alors après, assez vite elle a quitté la scène, mais elle bougeait pas, mais en même temps elle avait vraiment un magnétisme incroyable. Et voilà, donc moi c'est le premier album que j'ai écouté. Après j'ai plus jamais quitté parce qu'elle a sorti des albums jusqu'à récemment. Dao, etc. Donc,
François, pour vous aussi, c'est une artiste qui compte ?
Énormément. Je l'aime beaucoup comme Valérie et j'ai été très triste. Voilà. Bon, c'était pas une surprise. On savait qu'elle était malade depuis longtemps, mais voilà, c'est une artiste pour laquelle j'avais beaucoup de. Je l'ai jamais rencontrée, hein, mais j'avais beaucoup de d'amitié quelque part pour elle. Une élégance que je trouve absolument, absolument fascinante. Je voudrais insister sur une chose, c'est que, bien sûr, Françoise Hardy est une représentante de la chanson française, mais je crois que c'est plus que ça. Elle fait partie, pour moi, de ces très rares chanteurs ou chanteuses français qui rentre un peu dans la galaxie de la pop music et anglo-saxonne. Et je vois depuis deux jours sur les réseaux sociaux les artistes anglais avec lesquels je suis ami qui sont marqués par la mort de Françoise Hardy. Et il y a quelque chose chez elle de très britannique aussi, dans son flegme, dans sa voilà. Et pour moi, elle est vraiment elle a ouvert une voie dans une chanson française qui est un peu une chanson pop, dont Étienne Dao est évidemment l'héritier. Étienne Dao qui a fait une chanson notamment avec elle, Si je m'en vais avant toi, et Étienne Dao qui a une véritable amitié avec Françoise Hardy et qui était là au moment où elle est morte. Voilà, et qu'il a raconté dans le Figaro de manière très 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 bouleversante. Ça a été une véritable amitié entre ce jeune garçon qui raconte que pour la première fois qu'il a vu Françoise Hardy, il lui a broyé la main et que elle y en a pas voulu et que au contraire elle a accepté de chanter avec lui. Et je pense que ça a été un peu son fils spirituel musical. Et là on a une très très jolie lignée qui va de Françoise Hardy à Dao, et c'est très beau, ça me touche beaucoup.
Delphine, je crois que vous vouliez souligner son talent d'écriture, une écriture qu'elle mettait aussi au service des autres.
Bah oui, parce que même, elle disait, on a découvert, enfin, elle disait régulièrement que elle aimait pas sa voix, enfin, elle s'aimait pas, et en fait, elle préférait aussi écrire pour les autres. Donc c'est vrai, ce duo avec Étienne Dao, et puis c'est surtout aussi l'écriture. Enfin, moi, je retiens Fais-moi une place, la chanson qu'elle a écrite pour Julien Clerc, et je trouve qu'elle sait se mettre à la place d'un homme qui est fou amoureux d'une femme et qui qui lui demande de rester en lui disant, ben, des fois, même si je suis nulle, fais-moi quand même une petite place. Et je trouve que, en plus, quand on connaît son histoire d'amour absolu avec Dutronc, qui a quand même été compliqué, puisque lui, elle le disait, il n'était pas assez démonstratif, je trouve que elle, voilà, de se mettre à la place des hommes, alors qu'un a peut-être un peu souvent longtemps malmené un peu son cœur, je trouve que c'était des cadeaux qu'elle faisait. Puis c'est surtout cette écriture où je trouve qu'elle raconte très bien le doute et pas du tout la certitude, et ça fait bien, et ça fait du bien, rien que dans cette phrase, hein, si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent, cours jusqu'à perdre haleine et viens me retrouver. Bah rien que ça, moi je trouve que c'est, enfin voilà, c'est une magnifique déclaration de possibilité d'amour.
Françoise Hardy, autrice, compositrice, chanteuse, mais elle savait aussi chanter les mots des autres. Je vous propose d'écouter Mon ami la rose.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Quand j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Françoise Hardy, mon ami la rose. Repose en paix, Françoise Hardy.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Alors, c'est un événement dans le monde du cinéma. Peut-être peut-on le dire, Valérie, que c'est un événement dans le monde de la cinéphilie. C'est un moyen métrage, un film de 40 minutes, mais signé par Léos Carax. Alors, Léos Carax, pour beaucoup de gens, c'est Les Amants du Pont-Neuf, hein, une catastrophe cinématographique, enfin économique, mais un film vraiment éblouissant. Vous nous dites en quelques mots qui est Léos Carax et pourquoi ce retour dans une forme un peu originale, 40 minutes, fait autant de bruit dans ce petit monde de la cinéphilie.
Ouais, c'est vrai que depuis ce fameux film des Amants du Pont-Neuf qui a englouti la fortune de plusieurs producteurs parce qu'ils ont dû reconstituer entièrement le décor en studio, il avait un peu cette réputation d'artiste maudit ou de génie incompris selon ce qui ses détracteurs ou ses admirateurs. Il a très peu tourné, il a fait 6 films en 40 ans dont quand même au début aussi Boy Meets Girl, Mauvais Sang. Il a quand même fait quasiment démarrer à l'écran Juliette Binoche qui a été sa compagne à un moment, même si elle avait joué avec Téchiné d'abord. Bon, et après, il y a eu une grande traversée du désert et il est revenu avec Holy Motors et la comédie musicale Annette qui a refait l'ouverture de Cannes après le Covid. Donc, il a recommencé un peu à marquer un peu le monde cinématographique. Mais bon, il a un genre effectivement très à part qui serait plutôt dans la lignée de Godard. Il y a un petit côté un peu expérimental, un peu baroque, un peu très, très rock'n'roll. Et ce film-là, il a été montré à Cannes aussi cette année. Effectivement, c'est un moyen-métrage, mais vous pouvez le voir en salle comme comme un film normal, hein, c'est pas en ouverture. Alors, il y a des tarifs spéciaux, parce que comme il est court, effectivement, c'est moins cher.
Je me demandais.
Oui, c'est moins cher. Donc, vous pouvez y aller.
Et ça s'appelle?
Il l'a intitulé C'est pas moi. Alors, c'est pas moi. C'est à la fois, c'est toujours un peu d'humour. Hein, c'est un peu la réponse qu'un enfant fait quand on l'accuse d'une bêtise. Et puis, c'est aussi, ça instille un peu une idée, parce qu'il y a une dimension autobiographique. En fait, donc, ce film, c'était une réponse, c'était pour une exposition qui devait avoir lieu à Beaubourg, qui n'a pas eu lieu, et il devait répondre à la question, où en êtes-vous, monsieur Léos Carax? Donc, il y a une dimension autobiographique, donc c'est un mélange d'archives personnelles, on voit des images de sa fille, des images glanées sur Internet, des bandes sons, notamment, il y a des choses très, très émouvantes, on entend la voix de Barbara ou de Godard qui lui ont laissé un message sur son répondeur téléphonique. Voilà. Et donc, tout ça, c'est un peu une réflexion sur où est-ce qu'il en est lui, où est-ce qu'en est le monde, hein, parce que aussi c'est quelqu'un d'assez. Il y a une dimension politique. Il y a tout un extrait où on voit tous les dictateurs actuels rire aux éclats. Ça a un effet assez glaçant. Hein. On voit Poutine, Bachar el-Assad et d'autres. Et voilà. Et donc c'est aussi peut-être pourquoi est-ce qu'il marque autant. Bah, c'est un peu effectivement ce côté un peu à part dans la cinématographie. C'est aussi un genre un peu sensoriel, hein. C'est un cinéma assez
expérimental,
un peu expérimental. Et mais bon, juste allez-y pour tout ça, mais pour un moment de grâce finale qui est incroyable, c'est après le générique. Il faut rester jusqu'au bout, et c'est la marionnette Annette qu'on voit dans un espèce de travelling qui ressemble à celui de Denis Lavant dans Mauvais Sang, avec la musique de Bowie. Donc voilà, c'est un clin d'œil à son propre cinéma, et c'est une ode au cinéma.
Le cinéma, ça peut aussi être une expérience. Donc, aller en salle, découvrir ce moyen métrage, ça dure une quarantaine de minutes. Ça s'appelle C'est pas moi. Et vous l'avez compris, c'est signé Léos Carax. On parle bande dessinée maintenant avec vous, Delphine, toujours depuis Bruxelles. On aurait pu en parler un peu plus tôt dans l'émission, parce que c'est une bande dessinée, ça s'appelle Ulysse et Cyrano. Et c'est une histoire d'amitié.
Ouais, c'est une histoire d'amitié, et c'est une BD mitonnée aux petits oignons. Mais vraiment, c'est une fabuleuse histoire d'amitié, mais c'est aussi une aventure d'émancipation sociale et familiale, et une déclaration à la cuisine, une déclaration d'amour à la cuisine qui vous donne vraiment envie de passer à table. Quand je vous dis en plus que ça va se passer en Bourgogne, vous imaginez bien quand même les bons plats et les bons crus qu'on peut y trouver là-bas. Donc en fait, Ulysse, c'est Ulysse Le Serre, qui est le fils donc de Monsieur Le Serre, qui est un grand, enfin qui est à la tête d'une entreprise. Là, on est là en fait dans la période des Trente Glorieuses. Donc Ulysse s'apprête à passer son bac. Après, il doit faire polytechnique pour reprendre, bien sûr, l'entreprise de cimenterie de papa. Voilà, l'avenir tout tracé, sauf que Ulysse, il n'a pas envie de ça, et il n'est pas très très doué en maths non plus, et les répétiteurs aussi ne vont pas y faire grand chose, mais bon, il courbe l'échine, il comprend bien qu'il faut suivre effectivement le destin et la décision familiale, sauf que le père Le Serre, à un moment, va être rattrapé par la justice, parce que quelques années auparavant, il aurait été un petit peu complaisant avec l'armée d'occupation. Donc, il passe en justice, et pour éloigner sa femme et son fils donc du procès, il les envoie de Paris donc en Bourgogne. Et là, Ulysse va rencontrer Cyrano. Cyrano, c'est un ancien cuisinier qui a tout plaqué. C'est un homme qui est bourru, mais qui va prendre ce jeune garçon sous son aile et qui va lui transmettre son amour de la cuisine et ses secrets et sa façon de voir la vie plus épicurienne, mais toujours quand même avec de la discipline, et qui va lui faire découvrir effectivement l'amitié. Donc franchement, c'est une BD, vous savez, moi j'aime pas trop le terme feel good, parce que quand c'est marqué feel good, en règle générale, moi je fuis, le côté estompillé comme ça, j'ai du mal. Mais le feel good qui naît de la spontanéité, de l'authenticité, de la puissance de l'intérieur, vraiment, ben ça fait vraiment du bien. Et Ulysse et Cyrano, je vous la recommande. Tiens, il me semble que François est latiniste, donc je pense qu'il va apprécier ce mantra qui va devenir le vôtre après avoir lu, même dévoré cette BD. C'est In voluptate veritas. C'est ça, François?
En tout cas, c'est très beau, mais je suis un très mauvais latiniste.
Ah bah alors, bah voilà, je pose une colle. In voluptate veritas, donc
moi j'ai fait du
voilà,
blague,
la vérité dans la volupté.
C'est ça, voilà, on aurait pu le faire. On a hâte de découvrir ces deux personnages, Ulysse et Cyrano. C'est une bande dessinée, c'est chez Casterman. Merci Delphine. François, ça fait plusieurs semaines que vous nous parlez du grand retour d'Olivier Rocabois. C'est un artiste dont vous nous avez déjà parlé dans Effervescence. Il revient avec un album magistral, c'est vos mots, The Afternoons of Our Lives, les après-midi de notre vie, ça j'aime bien, les après-midi de nos vies. Quelques mots avant qu'on écoute un premier extrait?
Oui, Olivier Rocabois, il n'est plus tout jeune, il abordera bientôt, je crois, la cinquantaine. C'est un gamin. Enfin bon, voilà, il avait commis un album sous un nom de groupe qui était très bon d'ailleurs, le groupe s'appelait Olif, et puis il a osé passer le cap de signer, d'enregistrer sous le nom d'Olivier Rocabois. Il y avait un précédent album qui avait été très remarqué, qui était très beau, un EP ensuite de très belle qualité.
Que vous nous aviez présenté.
Et voilà, je crois que je vous ai présenté à chaque fois Rocabois. Et là, je ne me cache pas derrière mes confrères, mais le Monde, Libération, Le Figaro font des chroniques absolument dithyrambiques sur ce disque, qui le mérite. Pourquoi? Je dirais que c'est un peu son Abbey Road ou son Sgt Pepper, je ne sais pas. C'est-à-dire que il y a chez Rocabois quelque chose qui est absolument fascinant, c'est que il est évidemment un héritier de Paul McCartney, de David Bowie, de Neil Hannon, de Divine Comedy, c'est évident. Et en même temps, il n'y a jamais chez lui le moindre pastiche. Il a un style qui est vraiment à lui, qui est vraiment inimitable, d'un lyrisme tout à fait brûlant. Personne n'ose être lyrique aujourd'hui comme lui, sauf peut-être Neil Hannon de Divine Comedy. Et c'est d'une justesse absolue. Il ose. Et c'est magnifique.
On écoute un premier extrait, ça s'appelle All the Sun.
See, I'm dying.
On va pas tout écouter si on veut écouter un autre morceau, parce que je crois qu'il y a... Enfin, parlez-nous un peu de cet album quand même, François, d'Olivier Rocabois.
Alors c'est un album qui en fait à l'ancienne, il y a deux faces, si on peut dire comme autrefois, une première face avec six morceaux très lumineux, très solaires, et puis une deuxième face, c'est celle que je préfère moi, où on plonge dans quelque chose qui est un peu plus mélancolique, où le soleil se couche et on sent poindre on sent poindre quelque chose de différent. Donc beaucoup de morceaux sont extrêmement arrangés magnifiquement avec des cordes, enfin c'est très foisonnant. Et puis il y en a un qu'on va écouter maintenant, qui s'appelle Over the Moon, qui est peut-être pour moi la plus belle chanson d'Olivier Rocabois. À chaque fois que je vais en concert, je la filme, je dois avoir une dizaine de versions chez moi de cette version, de cette chanson en concert. Et Olivier n'était pas arrivé à l'enregistrer lors de ses précédents disques, et il a décidé de l'enregistrer, à mon avis, comme il le fallait, tout seul, voix, guitare. Dreaming away, I can know. Longer stand to see my face every day. In the mirror I once broke on a bank holiday. Can't believe it lasted so long. Sort of sad to stand it for middle-aged to love long losers like me. Shying away from the people and the venues I loved so much in my heyday. When I was at the top of my game, spontaneous but overrated. Can't believe it lasted so long. Sort of beat the records for lazy old late bloomers like me. Let me be the one who really cares about us all. I'm over the moon, thinking of tunes, with a sad smile upon my face. Let me be the one who really cares about us all.
Mais quelle voix, quelle voix, François?
Oui, c'est bouleversant. C'est une voix, moi, qui me laisse toujours. Pourtant, je la connais, mais voilà. C'est et rien qu'avec sa voix, il tient une chanson.
C'est ça, voilà.
Et ça prouve la qualité des compositions.
C'est lui qui compose, hein.
Ah oui, c'est lui qui compose tout, qui, bien sûr, c'est vraiment sa musique, son style. Et je pense qu'il a pas fini de nous régaler, parce que il est mis sur orbite, notre Olivier Rocabois.
Voilà, vous retenez bien son nom, Olivier Rocabois, et vous allez écouter cet album, The Afternoon of Our Lives.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Valérie, retour au cinéma avec vous, avec une exposition dans un petit musée à Paris. Je confesse, je ne savais pas qu'il existait. C'est le musée de la Libération.
De Paris. Qui est à d'Enfer Rochereau. Place d'Enfer Rochereau.
Pourtant, c'est pas loin.
Ouais. Mais il est petit. Il y a une impasse qui s'appelle. Il y a une adresse qui est rue Roll Tanguy. Mais...
Et donc, c'est une exposition consacrée à un film mythique. C'est le film Paris brûle-t-il. On écoute tout de suite des extraits de la bande-annonce.
Paris ne pouvait laisser à personne la gloire de le libérer. Et tandis que les déportés partent vers les camps de la mort, tandis que la Gestapo s'acharne sur les patriotes, à l'appel de la résistance, Paris répond présent. Paris se lève. Paris se hérisse de barricades. Au nez et à la barbe de l'occupant, Paris se couvre d'affiches.
Pour du grand spectacle, ils vont être servis.
Et Edgar Pisani pourra dire...
La libération a commencé.
Oui, la libération était commencée. Et vous la verrez se dérouler sous vos yeux, racontée par ceux-là même qui en furent les acteurs. Elle vous sera racontée par le colonel Roll Tanguy.
C'est le colonel Roll qui vous parle.
Voilà, Paris brûle-t-il, un film à l'honneur en ce moment au Musée de la Libération de Paris. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans une exposition sur un film? C'est toujours la question.
Alors, c'est plus qu'une exposition sur un film. Le sous-titre de l'exposition, c'est quand le cinéma réinvente la libération. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment la manière dont le cinéma et l'art en général impactent la mémoire collective, devient, comment un film devient un fait historique en tant que tel et contribue à la réécriture, enfin à l'écriture de l'histoire. Et soit effectivement en mettant en avant certains faits, soit en gommant d'autres. Donc il y a tout un travail vraiment d'historienne. La co-commissaire de l'exposition, c'est Sylvie Lindeperg, historienne et professeure à Paris 1, moi que j'avais eu en professeur, qui est absolument passionnante et qui fait ce travail à la fois d'historienne et de d'histoire du cinéma en tant que telle. Donc elle croise plusieurs sources, etc. Donc en fait, l'intérêt de l'expo, c'est comment voir, comment on fait un film en 65.
Oui, parce qu'il faut rappeler, le film est sorti 20 ans après la libération.
Comment on fait un film en 65 sur des événements qui ont lieu donc en 44, avec des protagonistes qui sont tous encore vivants, Chaban-Delmas, on l'a entendu, Pisani, évidemment De Gaulle qui est président de la République. Comment on choisit des acteurs déjà? Donc c'est tout le travail déjà entre c'est trouver un consensus en pleine guerre froide, alors, notamment entre les gaullistes et les communistes qui ont tous les deux évidemment pris part à la libération, mais qui 20 ans après ne sont plus tellement dans la même position. Comment aussi on demande l'autorisation à toutes les à la préfecture de Paris, au ministère des Affaires culturelles pour avoir le droit de tourner sur place. Donc il y a tout ce travail là déjà de vraiment comment on fait ce film là, comment à travers une analyse de l'image alors qu'on s'est mis d'accord sur un scénario pour que tout le monde soit OK, comment à l'image René Clément va garder sa liberté d'artiste et il va à un moment dans une scène entre Chaban-Delmas et Roll Tanguy, donc ils sont joués par Delon et Kremer, mettre en arrière-fond au musée Carnavalet un grand tableau de l'insurrection de 1848 qui symbolise la révolte populaire alors qu'on la gomme un peu quand même dans le film. Comment on gomme certains personnages, Georges Bidault par exemple, qui était le président du CNR, donc le Comité National de la Résistance, c'est celui qui a accueilli De Gaulle à l'hôtel de ville de Paris. Et en fait, après, il était en complètement froid avec De Gaulle parce qu'il a choisi le l'OAS pendant la guerre d'Algérie. Et donc, il est complètement absent du film alors que c'est un personnage clé. Et en même temps, le succès de ce film était tel, 5 millions de spectateurs. Il y a eu une grande première, on voit des photos de la première, on voit côte à côte.
Puis il y a un casting de folie.
Un casting, évidemment, et justement, un casting incroyable. Donc, on voit côte à côte, par exemple, Delon et Chaban-Delmas. Donc, Delon incarne Chaban-Delmas, Pisani et Michel Piccoli. Donc, on voit côte à côte les personnages réels et les acteurs qui l'ont incarné. Il y a comme ça à la fois une espèce de passage de génération qui se fait et en même temps un peu une réconciliation quand même entre toutes ces parties prenantes de donc c'est vraiment à la fois intéressant et ça même à l'heure actuelle c'est intéressant de se poser la question de comment l'art doit jouer ce rôle de dans la symbolique, dans l'imaginaire, dans l'histoire de France, quoi.
Alors, la musique de Paris brûle-t-il est signée Maurice Jarre. Le film sort en 1965. Mmh. Et c'est seulement un an après que Maurice Vidalin va écrire des paroles qui seront interprétées. Et là, je fais un petit coucou à Bruno Fuma, qui sera interprété par Mireille Mathieu. Mireille Mathieu, quelle voix là encore, et cette chanson Paris en colère qui termine aussi un autre film, La vie est un long fleuve tranquille. Allez, on continue à parler d'exposition, on remonte à Bruxelles avec vous Delphine Fraissinet. Vous nous emmenez au musée de la bande dessinée pour une exposition sur jazz et BD.
Bah oui, le jazz aussi qui a rythmé à la libération de Paris quand même, hein, c'était aussi la musique de l'époque. Alors cette exposition montre effectivement les liens qu'il y a entre le jazz et la BD, parce qu'il y a eu plusieurs albums biographiques, hein, sur des musiciens ou des chanteuses de jazz emblématiques, Thelonious Monk, Barney Whelan, Billie Holiday. Il y a aussi eu des fictions qui ont mêlé polar et jazz, hein, comme la série Jazz Ménard, hein, chez Dargo. Là, dans cette galerie du premier étage, eh bien, on découvre donc cette expo concoctée par la commissaire Mélanie Andrieux et réalisée en collaboration avec la Maison du Jazz à Liège. Alors, parmi les œuvres présentées, il y a des planches originales qui montrent comment le trait où la couleur, même si c'est principalement en noir et blanc, eh bien donne le rythme, le tempo. Il y a notamment les planches de Louis Josse, le maître du noir et blanc, et qui est vraiment une référence internationale en la matière. Il y a ses portraits de Charlie Mingus, Bud Powell ou encore John Coltrane. Et puis on découvre des portraits inédits, moi un qui m'a beaucoup touché, qui m'a plu, de Chet Baker, qui est vraiment sublime, qui est signé Joe Painelli. Et puis cette expo, bien évidemment, se fait en musique. Hein. Vous la découvrez avec une bande-son de jazz qui passe.
Et vous évoquiez Chet Baker, allez, quelques notes de My Funny Valentine.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart?
Voilà, cette voix de Chet Baker pour nous emmener au musée de la BD à Bruxelles et aussi nous emmener vers un peu de poésie. François, vous êtes mis à la lecture de la poésie et vous avez découvert Jean-Pierre Lemaire.
Oui, alors j'avais un peu lu de poésie quand même dans ma jeunesse, mais c'est vrai que la poésie contemporaine par Jacotet, j'avais pas énormément pratiqué, et j'avais lu un peu Jean-Pierre Lemaire naguère, et j'avoue un peu trop vite, c'est très mal de lire la poésie trop vite, en fait il faut jamais faire ça, et je me suis plongé dans son œuvre, et alors je peux donner ce petit conseil à nos auditrices et nos auditeurs. Pour commencer, je pense, dans l'œuvre de Jean-Pierre Lemaire, en poésie Gallimard, il y a un recueil de poèmes choisis qui a un titre magnifique qui s'appelle « Le pays derrière les larmes ». Pourquoi j'aime Jean-Pierre Lemaire ? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un poète en grande partie, il ne faut pas le réduire à ça, de la simplicité du quotidien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose chez lui qui est un poète de choses de la vie quotidienne que nous connaissons tous. Et donc, il y a un regard particulier. Et au fond, la poésie de Jean-Pierre Lemaire, me semble-t-il, en tout cas, c'est ce qu'il en dit lui-même, c'est que c'est une poésie de la surprise. Quelque chose que nous voyons, si nous le regardons vraiment, peut à un moment donné nous surprendre, surgir, nous prendre par surprise et faire naître en nous la poésie. Et puis il y a bien sûr chez Jean-Pierre Lemaire une foi chrétienne qui est assumée, mais qui n'est jamais, ce ne sont pas des poèmes religieux au sens où il assènerait quoi que ce soit, mais en revanche la grâce est en permanence, elle vient tisser sa poésie avec le quotidien d'une manière magnifique. Alors je pense que le mieux c'est quand même que je vous lise
oui.
Deux très courts poèmes.
Allez-y.
Un s'appelle « La mer à Menton », parce qu'il a une maison sur les hauteurs de Menton, un appartement plutôt, je crois, sur les hauteurs de Menton. Voilà ce poème. « La mer suspendue au-dessus des toits et de la table où tu écris n'envahira pas les rues, les maisons. Elle attend là-bas, derrière les palmiers et les drapeaux multicolores, immense, retenue, que nous levions les yeux, que demain ce chemin s'ouvre dans nos cœurs pour nous alléger comme des bateaux. » Voilà, cette image que de mince chemin s'ouvre dans nos cœurs pour nous alléger, ben je ne sais pas vous, mais moi ça me parle beaucoup et souvent. Et puis un autre poème qui s'appelle « Avant tout », qui est à peine plus long et que je trouve magnifique aussi. « Les maisons, Les arbres sont tournés vers l'est, regardant la lumière qui vient d'Italie, comme si chaque chose était une aiguille attentive au passage d'un fil de lumière à l'intérieur de soi. Les hommes déjà sont partis en tous sens, et toi qui essayes de surprendre en chacun l'ouverture secrète, tu dérobes aussi le chat de ton cœur au fil lumineux. Si tu l'as manqué, il se présentera peut-être à la fin de l'autre côté, rouge avant de se rompre. À la dernière heure comme à la première, il faudra lever les yeux de ton ouvrage, accepter le regard de ce qui t'éclaire, et tu t'endormiras, selon qu'il est passé ou non par ton âme, uni ou dispersé. Voilà, et ce que j'aime chez Jean-Pierre Lemaire, c'est qu'il y a cette conscience aiguë dans sa poésie, qu'il faut accepter la lumière qui nous éclaire. Évidemment, pour lui, c'est en partie la lumière du Christ, mais ce n'est pas que ça. Il y a des lumières qui font que nos vies peuvent parfois devenir tout autre.
Au bout du téléphone, il y a votre voix, et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire, et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je voudrais arriver. Je reste, je me déteste. Je n'arriverai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver. Où je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd. J'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Dégoût de la vie vient en toi. Si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène, viens me retrouver.
Si le message personnel. Des textes de Françoise Hardy et une musique de Michel Berger. Ben voilà, c'est la fin de cette émission sur autour de Françoise Hardy et autour de l'amitié. Je repense à cette chanson de Louis Chédid, on ne dit pas assez aux gens qu'on aime qu'on les aime. Alors je vous aime, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel Effervescence. Merci à tous ceux qui ont rendu cet épisode possible. Il y avait Delphine Fraissinet, François Huguenin, Valérie de Marniac et puis bien sûr Pierre-Henri Paget à la réalisation. Allez, une petite citation de Françoise Hardy pour vous laisser partir. Tous les jours, j'apprends à espérer. Bon week-end à tous.